BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Le grand journal de l'écho avec Dominique Schellcher, qui est le président de Système U. Bonsoir Dominique Schellcher.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
J'imagine que vous avez entendu le discours du petit général d'Elisabeth Borne cet après-midi. On l'a vu que le pouvoir d'achat, enfin on a entendu que le pouvoir d'achat était la priorité du gouvernement. Demain, présentation au Conseil des ministres de cette loi sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous trouvez que, on affirme que c'est la priorité, mais est-ce que la réponse est suffisante ?
Il était très important que ce soit annoncé comme une priorité, c'est tant mieux. Moi, si vous voulez, comme je suis entre Paris, où nous avons le siège de Système U, et la province où je suis bien ancré, où je rencontre les gens sur le terrain, moi je trouve qu'il y a un grand décalage en ce moment, et parfois même une déconnexion. C'est-à-dire que les projets sont là, mais il y a vraiment l'urgence sur le terrain. Point de vue pouvoir d'achat, c'est difficile pour les gens. Quand vous utilisez la voiture tous les jours pour aller au travail, pour faire vos courses, 24 km en moyenne, pour chercher vos enfants, c'est critique en ce moment. Donc il faut absolument passer, moi je dis, du discours aux actes maintenant. Et je vous donne un autre exemple, on va sans doute en reparler, c'est le chèque alimentaire. Ce chèque, on en parle depuis plus d'un an, et je crois même plus. Et il arrive seulement maintenant. Donc c'est tant mieux qu'il arrive. Mais pour moi je constate une sorte de décalage entre Paris et la province, où il y a une véritable urgence sur le terrain.
Oui, oui, et puis on va même être franc, puisqu'on en discutait juste avant cet entretien, Dominique Schellcher, c'est que vous étiez un peu étonné, voire dégoûté, c'est un peu excessif, mais de voir Paris, la capitale, sous le soleil, etc., et de voir qu'en province, la situation était beaucoup plus difficile.
Mais oui, c'est beaucoup plus difficile. Et les gens, par exemple, maintenant n'ont qu'une hâte, c'est vrai, c'est de changer d'air, d'aller en vacances en province aussi, mais parfois avec très peu de moyens. Donc ils économisent tout ce qu'ils peuvent. Même sur leur lieu de vacances, ils ont fait l'effort d'emmener leurs enfants, etc., alors que le budget est très serré. Et sur le lieu de vacances, ils trouvent encore des solutions extrêmes. Donc il y a une véritable urgence pour les Français. Et maintenant, donc, j'espère que ce projet de loi qui est présenté dès demain va aboutir et va apporter un souffle aux Français.
Mais en même temps, qu'est-ce que vous en attendez ? On en connaît les grandes lignes, notamment le chèque inflation, 100 euros, 50 euros par enfant. Certains disent que c'est un one shot. Ça coûte déjà un milliard, le one shot. Mais est-ce que c'est suffisant ? Qu'est-ce que vous souhaitez ?
Alors, à court terme, il y aura cette aide visiblement sous forme d'un virement en septembre. Donc, ça sera un bonus anti-inflation. Et le chèque serait plutôt pour 2023, mais c'est vrai qu'il reste encore sur des modalités à discuter. Mais là, peut-être la bonne nouvelle que moi j'ai entendue depuis le début de la semaine et qui va faire partie de tout ça, c'est l'aide supplémentaire sur le carburant. Ça, c'est une bonne chose. Ça répond à ce que je viens de dire avant. Les 18 centimes actuels ne sont pas suffisants. Pour tous ces gens qui roulent énormément, ça n'est pas suffisant. Et donc l'annonce de Bruno Le Maire, et qui va faire partie de ce package, est une très bonne nouvelle pour les gros rouleurs.
Qu'est-ce qu'on appelle un gros rouleur ? Vous voyez, là encore, c'est ça la difficulté. Quand vous ne voulez pas arroser tout le monde, qu'appelez-vous un gros rouleur ?
Ceux qui ont besoin en province de prendre la voiture tous les jours pour aller au travail, ce qui est de loin pas le cas des Parisiens. Combien de Parisiens ont encore une voiture ? En réalité, ils sont très peu nombreux, donc ils ne se rendent pas compte de ça. Or, en province, je le répète, vous faites 24 km en moyenne pour aller à votre supermarché ou à votre magasin alimentaire, et puis parfois, vous faites 50 km aller 50 km retour pour aller travailler.
Oui, mais par exemple, ça serait valable pour les actifs. Donc, un chômeur ne toucherait pas cette aide de gros rouleur, même s'il doit aller pointer à un pôle emploi qui va du reste devenir France Travail. Mais où ça peut être la femme d'un actif ou le mari d'une femme active et qui va pas en bénéficier. Non, mais vous voyez, c'est toute la difficulté.
C'est bien sûr qu'il y a une complexité. En même temps, la France a un problème de déficit public. Et c'est pas ici qu'on va le démontrer, mais vous le savez par cœur, on n'a pas les moyens d'arroser tout le monde, et donc il faut des aides ciblées. Ciblées, ça veut dire faire des choix. Donc oui, à un moment, on ne pourra pas toucher tout le monde, on n'en a plus les moyens.
Mais en revanche, la proposition qui est sur la table, de faire un chèque pour les gros rouleurs, vous, Dominique Schellcher, ça vous convient ?
Et c'est indispensable. D'accord. Et c'est urgent. Ouais. Voilà.
Justement, sur la question des hausses des prix, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous voyez encore une flambée des prix ? Et puis, est-ce qu'il y a un problème de transparence ? Est-ce que vous demandez une commission d'enquête comme le demande Michel-Édouard Leclerc ?
Oui il y aura encore des hausses de prix, malheureusement, puisque nous continuons à recevoir des demandes de hausse, souvent à deux chiffres par nos fournisseurs, parce que pour l'instant, la hausse des matières premières, des emballages, du carburant, de l'énergie pour produire continue. Donc oui, avec 5,8% à date à fin juin, on n'est pas au bout. Je pense que fin d'année, on pourra se rapprocher des 8 et peut-être 10 si on regarde d'autres pays européens. En tout cas, on n'est pas au bout du chemin. Deux, dans cette discussion, les choses avancent. On passe régulièrement des hausses de prix. On trouve des terrains d'entente avec un certain nombre de fournisseurs et ça se passe bien. Avec certains fournisseurs, c'est vrai, c'est plus lent, plus long.
Parce aussi, vous avez des doutes sur la barre chocolatée de Mars ou de Nestlé.
Moi, je ne cherche pas des coupables partout. Je ne veux pas laisser croire aux Français qu'il y a en ce moment une spéculation massive, parce que ça n'est pas vrai. Qu'il y en ait un peu en période d'inflation, c'est possible. Mais il ne faut pas laisser croire aux gens qu'il y a une spéculation massive. Je vais sur le terrain, je vais voir les entreprises, les agriculteurs. Il y a une réalité d'écoute. Le chocolat, qu'est-ce qu'il y a derrière le chocolat? Il faut que la hausse soit raisonnable sur le chocolat, mais c'est le transport du chocolat. Pour venir de Côte d'Ivoire, d'Afrique, à un moment, il y a un conteneur, il y a un bateau, et tout ça a coûté plus cher.
Il raconte n'importe quoi, Michel Leclerc? Ou il fait sa promo, il fait sa com?
Eh bien, écoutez, on n'a pas forcément toujours la même vision. Et moi, surtout, ce que je cherche, c'est chercher des solutions tout de suite, trouver des accords tout de suite avec les fournisseurs et pas, voilà, chercher des coupables. On n'a pas le temps de ça, quoi.
Mais donc, pour vous, il y a une commission d'enquête?
Et je suis contre cette commission d'enquête. Le sujet, c'est pas une commission d'enquête dont on sait très bien que le rythme est décalé par rapport aux besoins immédiats et dont je pense qu'elle ne va pas aboutir de toute façon. Donc ce qu'il faut, c'est appeler à la transparence, c'est dialoguer avec l'ensemble des interlocuteurs. J'avais encore quelqu'un du ministère de l'Agriculture hier soir pour encourager tout le monde à cette transparence, faire en sorte que le gouvernement encourage à cette transparence et faire en sorte que le travail de nos acheteurs qui sont confrontés aux propositions de toutes les entreprises puissent avoir tous les éléments pour décider rapidement. C'est ça le sujet.
Ouais. Alors, ce qui aurait pu faire éventuellement baisser les prix, il y avait une solution qui était la promotion alimentaire à 50%. Elle a été retoquée finalement par Bruno Le Maire qui dans un premier temps, on a l'impression qu'il était plutôt favorable. Finalement, ça sera retoqué, ça s'arrête à 34%. Quelle est votre position là-dessus, Dominique?
Oui, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que c'est un élément d'une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui avait pour but, un, de gommer les excès de promotion qu'il y a pu y avoir quelques années en arrière, et surtout de défendre le revenu des agriculteurs. Cette loi, on ne peut pas la découdre, la décomposer par petits bouts maintenant, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Cette loi est un tout, donc il faudrait faire une nouvelle loi et reconstruire autre chose, éventuellement, mais on ne peut pas prendre un élément de la loi et le casser aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a deux choses à faire en ce moment, et ça, pour moi, c'est extrêmement important, et encore une fois, c'est une vision peut-être sensiblement différente. Bien sûr, il faut se battre pour le pouvoir d'achat des clients, le défendre, mettre en place une armada de mesures, et on le fait chez Système U, on prend sur nos marges et on pourrait le détailler, et en même temps, on ne peut pas oublier le juste revenu de l'agriculteur, celui qui produit.
Oui,
faute de quoi on remet en jeu la souveraineté alimentaire de la France, et la Première Ministre l'a dit d'ailleurs dans son discours.
J'allais dire, là vous me faites penser à la Première Ministre qui dit qu'il faut chercher des compromis, donc qui fait un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Vous faites un tout petit peu la même chose, non, de Michel Cher? Parce qu'en même temps, il faut bien... si on fait baisser les prix, forcément ça se fait un peu sur le dos des industries agroalimentaires, des agriculteurs.
Il y a aujourd'hui des façons de faire et de trouver des équilibres justes et équitables pour tous. Par exemple, les contrats tripartites qu'on pratique très largement pour la fabrication de la marque U chez Système U, c'est un exemple. Avec le transformateur, la coopérative agricole et nous, on signe. Il y a des clauses de révision de prix, etc. Et donc là, on arrive à avoir des choses équilibrées. Quand je visite les agriculteurs actuellement, ils sont à faire des choix. Mes bêtes, mes volailles ont été éliminées par la grippe aviaire. Je dois re-remplir mon élevage. Je me pose la question, vais-je le faire au moment où le gaz augmente tellement alors que je chauffe au gaz? Mais si demain, on a moins de volaillers, moins d'éleveurs de porcs, moins de producteurs de lait, et ça, c'est déjà parti, moins 2% de production de lait par an, dans 10 ans, moi, je vous le dis, peut-être il y a un problème de revenus, un problème de... C'est un métier difficile aussi. Voilà, il y a tout ça qui se cumule. Et donc, si on ne fait pas attention aux revenus aussi, au pouvoir d'achat, mais aussi aux revenus, dans 10 ans, je vous le dis, on sera contraint d'importer. Le prochain produit en pénurie critique, cette année encore, ce sera le beurre. Mmh. Ce sera le beurre. Parce que moins 2% de production chaque année, moins de matières grasses, des achats à l'étranger mieux valorisés, et donc il y aura une vraie tension sur le beurre dans les mois qui viennent et pour les fêtes de fin d'année.
Donc la réponse, demain, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, ça sera une partie, une réponse partielle du moins
tout à, fait.
À la situation, non
enfin, absolument,
écoutez,
la difficulté...
Là, je vous laisse parler de Michel Cher, je me dis, ça va être compliqué là.
Il y a plein d'injonctions contradictoires en ce moment, mais c'est notre responsabilité de trouver des solutions à une équation qui est effectivement véritablement complexe.
Ouais. Vous pourriez participer à la grande marche de Jean-Luc Mélenchon pour défendre justement le pouvoir d'achat des Français ?
Non mais je ne fais pas de politique. Moi, je me bats dans mon entreprise.
Non mais ça va dans votre sens en même temps, c'est qu'il y a une mobilisation.
Pour défendre le pouvoir d'achat. Et puis il y a d'autres mesures beaucoup plus importantes dans ce qui a été annoncé cet après-midi qui sont à souligner. Après le priorité pouvoir d'achat, la baisse des impôts de production annoncée pour 8 milliards dans le discours de la Première ministre.
Oui, c'est la fin de la CVAE.
C'est une très bonne
2023.
Nouvelle. Mais bien sûr. Ça va toucher de très nombreuses entreprises et c'est indispensable à un moment où la France est décalée sur ce plan des impositions par rapport à tous les autres pays européens.
Oui, donc ça pour vous c'est une bonne chose. Vous avez augmenté vos questions rituelles que je pose à tout le monde. Vous avez augmenté vos salariés là ?
Mais absolument. Oui. Notre branche a augmenté les salaires depuis l'automne dernier de 6% en 3 fois. Je pense qu'il y aura un prochain rendez-vous au mois d'octobre. Nous sommes une branche qui se met souvent rapidement d'accord. Je rappelle qu'il y a 13 mois de salaire dans notre profession. Nous ne sommes pas la branche la moins disante.
Peut-être, je reçois dans le Grand Journal de l'Écho, je reçois le président de l'autorité de la concurrence. Et lui qui dit, la concurrence, en fait, ça permet, notamment, ça libère du pouvoir d'achat pour les Français, que ça soit sur les pièces automobiles, sur différentes choses. Vous avez décidé de mettre fin à votre centrale d'achat commune avec Carrefour, envergure. J'ai envie de dire, plus il y a de centrales d'achat, mieux c'est pour la concurrence, non? Ça fait baisser les prix. Il n'y a pas d'entente.
Alors, l'explication, elle est toute simple. Aujourd'hui, avec la centrale d'achat telle qu'on l'a en commun avec Carrefour pour 80 grands fournisseurs, on discute d'un côté l'aspect tarifaire, ensemble avec Carrefour, et de l'autre, dans chaque enseigne, on discute la promotion et les catégories. Et dans une période hyperinflationniste telle qu'on la connaît actuellement, en fait, il faut que chaque distributeur maîtrise l'ensemble de sa négociation. Donc, on a simplement fait un constat de commun accord que notre organisation actuelle, qui était bonne et utile il y a 5 ans, 4 ans, ne l'est plus aujourd'hui et qu'il fallait changer d'organisation. Ouais. C'est du bon sens adapté à une période inflationniste.
Absolument. Et ça va dans le sens d'une bonne saine concurrence, pour le coup.
Mais du coup...
Ça veut dire, plus il y a centrale d'achat, mieux c'est pour les agriculteurs, mieux c'est pour les PME.
Oui, et puis que chacun maîtrise, en fonction de sa politique commerciale, sa discussion, en fonction de ses priorités, de ses besoins, de notre sensibilité, par exemple, à nous aussi, aux revenus agricoles, des producteurs, des PME, qu'on défend très largement chez Système U.
Juste dernière question de Michel Cher, le prix du carburant chez vous, il est à combien ?
Il est au-dessus de 2 euros, malheureusement, sur l'ensemble des carburants.
Vous allez faire des promotions.
Selon les jours, il peut rebasculer un peu en dessous. Les spécialistes nous disent qu'il est à craindre qu'il continue à évoluer d'ici la fin de l'année. Et donc, un prix du carburant élevé, un prix du chauffage et de l'énergie pour le prochain hiver élevé avec des risques de pénurie, c'est les grandes inquiétudes de l'automne.
Merci beaucoup, les grands défis de la rentrée. Merci
absolument.
Dominique Schellcher d'avoir été avec nous, comme toujours, le patron de Système U. Dans un instant, justement, on parlera de problèmes de filière, de difficultés des filières d'approvisionnement avec Philippe Varin, qui, lui, avait publié ce rapport, souvenez-vous, sur la sécurisation de l'approvisionnement. J'en profite pour dire, surtout, vous pouvez podcaster l'interview de Dominique Schellcher sur BFM Business, sur le site et sur l'application. A tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Edwige.
Alors vous vous êtes demandé, en fait, dans quelle région mon impôt rapporte le plus?
Ouais.
Où en fait il y a un rapport coût-qualité,
oui,
en fonction de ce qu'on ponctionne,
mm-hmm,
qui est le plus élevé. La réponse, c'est où?
Alors, c'est un classement qui a été fait par le site de conseil fiscal CLIM. Et alors, effectivement, bon, on regarde ce qu'on paye avec le montant que, finalement, vous mettez en regard en qualité de service public sur le logement, l'éducation, les transports, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des fortes disparités malgré la solidarité nationale. La solidarité nationale, elle joue à plein. Vous allez le voir, puisque, effectivement, les régions les plus pauvres bénéficient d'un transfert de richesses de la part des régions les plus riches. Mais il y a quand même encore de gros écarts. Alors, deux régions de la moitié nord du pays sont sur le podium des régions les plus compétitives en termes de rapport coût-efficacité des services publics. C'est les Hauts-de-France, d'abord, puisque le montant d'impôt sur le revenu y est de 730 euros par an et par personne. C'est le montant le plus faible parmi toutes les régions de France métropolitaine. Et puis, finalement, le niveau de qualité des services publics, eh bien, est assez élevé. Deuxième position, la Normandie, 771 euros d'impôt par habitant. Effectivement, avec des services publics, là encore, plutôt de qualité. C'est la Bourgogne-Franche-Comté, juste devant la région Centre-Val-de-Loire qui clôture finalement le podium des régions les plus attractives. La grande perdante du classement,
alors, oui,
c'est la région Île-de-France, uh-huh, qui arrive bonne dernière. Bah, c'est la région la plus riche. Et donc, c'est ses habitants qui contribuent le plus, finalement, à la solidarité nationale, puisque, en moyenne, ils payent 2158 euros d'impôt sur le revenu par habitant. Et puis, la qualité des services publics, eh ben, elle n'est pas tant que ça au rendez-vous, avec une faiblesse importante, notamment du côté de la fonction publique hospitalière. Avant-dernière, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et avant la Côte d'Azur, donc pénultième dans le classement, c'est la Corse. Alors cette fois-ci, le score ne s'explique pas par le fait que on paye beaucoup d'impôts. Hein, le niveau de pauvreté en Corse est élevé et donc le niveau d'impôt est assez faible. 892 euros payés en moyenne par habitant, sauf que l'offre de services publics est finalement d'assez mauvaise qualité.
Très intéressant, on peut le retrouver sur le site de BFM Business, parce
absolument,
que je pense que chacun a envie de retrouver son département. Merci Emmanuel Le Chypre. Dans un instant, Philippe Varin, on parlera d'approvisionnement, de sécurisation des matériaux. Il est l'ancien patron de PSA et de France Industrie, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est celui qui essaie de voir s'il y a une forme de sécurisation possible de l'approvisionnement de l'industrie. Bonsoir Philippe Varin.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être là, ancien patron bien sûr de PSA, France Industrie. Beaucoup de questions à vous poser pour savoir qu'est-ce qui nous manque vraiment, dans quel état sont les filières, est-ce que ça va un petit peu mieux. Deux, trois réactions quand même au discours de politique générale, forcément. Impôt de production, la CVAE devrait disparaître en tous les cas en 2023. Est-ce que l'ancien patron de France Industrie dit formidable?
Je dis que c'est une très bonne nouvelle. On a assez milité.
Pas pour les finances publiques, mais,
non, mais
pour
on
les
a
finances
assez,
locales.
Il y a 70 milliards d'impôts de production qui pèsent sur l'industrie française. Durant le premier mandat du président Macron, il y a une réduction de 10 milliards sur les 70. Là, je crois que c'est de l'ordre de 8 milliards sur la CVAE, ouais, en une fois, comme c'était demandé. Non, c'est très bien. Oui. Enfin, il reste du chemin à faire. Et en tout cas, la tendance est bonne, surtout dans
le contexte. Et que ce soit la CVAE, pas la C3S, parce qu'il y avait deux versions en fonction du MEDEF, de la CPME, en fait, presque en fonction de la taille de l'entreprise, finalement.
Non, mais ce qui est important, c'est que ça s'applique à tout le monde et que c'est fait dans l'année. Ouais. Voilà, c'est ça les points importants.
Ouais. Est-ce que le 100% EDF, nationalisé à 100%, est-ce que ça change quelque chose, puisqu'on va parler d'énergie avec vous, Philippe? Parce que la Première ministre a dit qu'il fallait des mesures radicales pour transformer notre économie et que la France devienne la première grande nation à se passer des énergies fossiles. Est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens, ou est-ce que c'est quand même un peu utopique?
Ah, mais je pense que le nucléaire est un atout du pays. Et on voit bien ce qui se passe lorsqu'il y a des difficultés liées à certains problèmes techniques ou à la problème de sécheresse aussi. Nous avons besoin du nucléaire. Et donc la décision qui a été prise de faire 6 nouveaux EPR est une décision absolument indispensable. Et en parallèle, il faut monter le volume des énergies dites renouvelables, c'est clair. Alors simplement, la nationalisation d'EDF, je crois que dans la situation, c'est le moyen de focaliser l'entreprise. Vous verrez le président d'EDF bientôt ici sur ce plateau, à la fois focaliser l'entreprise sur cet objectif de sortir les EPR le plus rapidement possible, même si on a dit qu'il fallait beaucoup de temps pour chaque EPR.
Oui, parce que le plus rapidement possible, c'est quand même long.
Ça prend du temps, mais justement, faire le plus efficace possible d'une part, et d'autre part, financer un énorme programme.
Oui, mais c'est ça qu'il faut essayer de faire. Comment aller plus vite? Vous qui êtes un industriel de chevronné, Philippe Varin, vous êtes tombé dedans. Comment faire pour aller plus vite?
Moi, je fais vraiment confiance aux équipes d'EDF. Si elles ont des objectifs ambitieux, si elles sont complètement organisées, focalisées sur un objectif, et avec les compétences de projet qui ont beaucoup augmenté, tous les déboires qu'on a eus, que ce soit en Finlande pour Areva, puis d'une part, et aussi à Flamanville. Je crois qu'il y a des leçons qui ont été tirées. Il faut tirer vraiment toutes les leçons, et puis on a de très bons ingénieurs en France et chez EDF.
Alors, vous, chaque semaine, en fait, depuis la crise en Ukraine, ou presque chaque semaine, vous vous réunissez avec des professionnels de l'industrie pour savoir quelles solutions trouver à cette crise, en tous les cas, ce qui découle de cette guerre en Ukraine. C'est une mission, en tous les cas, que vous a confiée Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que, cette mission, elle continue depuis le changement de fonction d'Agnès Pannier-Runacher? Enfin, ça, c'est plus anecdotique. Et surtout, on voit bien que les chaînes d'approvisionnement, elles ont été interrompues. Où est-ce qu'on en est?
Alors, il y a deux sujets dans votre question. Il y a le sujet des chaînes d'approvisionnement sur la mobilité, donc notamment les batteries, les moteurs électriques, etc., justement pour être cohérent avec les objectifs de la transition écologique. Et puis, deuxièmement, il y a la guerre en Ukraine. Donc, c'est deux sujets qui ne sont pas tout à fait de même nature, mais
qui
sont pas indépendants.
Qui se retrouvent, voilà.
On va se retrouver.
Enfin, oui.
Mais si je reviens, peut-être dans un premier temps, sur la question de la mobilité, des chaînes de valeur batterie et aimants. Moi, je pense que dans cette transition, il y a un certain nombre de choses qui sont des vérités parfois inconfortables. La première chose, c'est que lorsqu'on fait un véhicule électrique aujourd'hui, on utilise 6 fois plus de matériaux qu'un véhicule thermique. Bon. Donc, cette transition, vous savez, vous et moi, aujourd'hui, nous extrayons directement ou indirectement 20 tonnes par an de la planète, déjà. Et en 30 ans, on va extraire de la planète autant que depuis le début de l'humanité. Donc ça, je dirais, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les matériaux, c'est très important et on n'en parle jamais quand tout va bien. Bon, et quand il y a des pénuries, on commence à s'affoler légitimement. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la Chine, c'est un peu, l'éléphant dans le couloir. C'est-à-dire que, on ne veut pas en parler, mais tout le monde le voit. La Chine, elle a, sur les technologies des batteries, sur les chaînes de valeur batterie, pris possession de 50% de ces chaînes de valeur. Et pour les aimants qui vont dans les moteurs électriques, dans les moteurs de voiture, 3 à 5 kilos d'aimants, ou en haut du mât d'une éolienne, on a 600 kilos d'aimants. C'est 90% la Chine.
Oui, c'est
donc, il faut pas que, parce qu'on va être net zéro en 2050 en CO2, on abandonne notre souveraineté.
On est en train de le faire.
Non, parce que justement, il y a un certain nombre de mesures dont on va pouvoir parler. Et le troisième point sur lequel je veux insister, c'est que cette transition, c'est une transition politique. Aujourd'hui, il n'y a pas un signal prix du CO2 dans l'économie encore vraiment. Et donc, il faut que les États aillent au-delà de la boîte à outils habituelle, des réglementations, de l'innovation, mais prennent vraiment, comme la Chine le fait, le Japon le fait, et les États-Unis qui ont classifié défense il y a 3 mois leurs matériaux nickel, cobalt, lithium. Il faut que l'Europe aussi avance sur ces sujets de manière volontariste. Donc, et puis, vous savez, on parle beaucoup du véhicule électrique, mais lorsqu'on fait le pari du véhicule électrique, ce qu'il faut faire, il ne faut pas oublier qu'il faut ouvrir des mines. Si on n'ouvre pas de mines, on n'a pas les matériaux. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on branche son véhicule électrique, si l'énergie, et pas au niveau français, parce qu'on a le nucléaire, donc on émet peu de CO2, mais si on prend la moyenne européenne, qui est plutôt autour de 400 grammes, la France c'est 60, hein, de grammes de CO2 au kilomètre, 400 grammes, bien, si vous ajoutez une batterie dont les matériaux ont été faits parce qu'ils sont importés de l'hémisphère sud dans des pays qui émettent beaucoup de CO2, la performance en matière de climat de la voiture électrique, elle est extrêmement réduite. Mmh. C'est pas du tout pareil si on fait le véhicule électrique avec des matériaux qui ont été faits à partir de mines responsables et sans CO2. Oui, et puis évidemment, si l'électricité est décarbonée. Donc, mon point, c'est que c'est un ensemble. Il n'y a pas de demi-mesure sur ce sujet.
Oui, il n'y a pas de demi-mesure, mais il y a quand même un demi-discours. Non, dans le sens où on voit que ce qui est peint en vert... Moi, je vous écoute. Les chiffres sont quand même un peu catastrophiques. De la voiture électrique, des éoliennes, donc des énergies renouvelables. Et ça, personne ne le dit. Enfin, nous, on le dit un peu. Enfin, du moins, Bruno Le Maire a quand même... C'est pour ça qu'il a la Gigafactory sur les batteries. Enfin, il y a quand même une prise de conscience. Mais c'est sûr que quand vous nous dites que 90% de ces aimants, là, ils viennent de Chine... On perd notre souveraineté, hein. Enfin, où elle est perdue, du moins.
Il faut réagir. Donc,
on fait quoi pour réagir?
Alors, d'abord, je pense qu'il faut être réaliste. On risque d'avoir des pénuries.
Alors, où?
Alors, des pénuries, pourquoi? Parce que la demande sur ces matériaux, lithium, nickel, cobalt, les terres rares pour les aimants, ça va croître un facteur 3 à 6 par rapport à la demande actuelle dans 10 ans. 3 à 6. Donc c'est une pente de montée en régime de la demande très forte. Au point de vue de l'offre, de l'autre côté, il faut savoir qu'on est dans un creux de cycle minier, hein, dans les investissements miniers dans le monde, et il n'y a pas de capacité disponible aujourd'hui. Bon. Deuxième sujet, c'est qu'il y a un certain nombre d'instabilités politiques. Bon, l'Ukraine, la Chine, les États-Unis, et puis les pays d'Afrique. Si vous avez vu dans la résolution de l'ONU contre la Russie, il y a 31 pays d'Afrique qui se sont abstenus.
Absolument.
Donc on n'est pas forcément attendu.
Ça a été quand même...
L'Amérique latine, elle bascule à gauche, à part le Brésil, parce que les élections sont bientôt. Donc ce n'est pas un sujet facile sur le plan de l'offre. Hein, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, je dirais, le dernier point, c'est que l'opinion publique, elle n'est pas prête à avoir beaucoup de mines. Donc, si vous voulez...
Est-ce qu'on pourrait... Alors, vous avez raison, mais on ne va pas réouvrir... Je posais la question si on pouvait rouvrir des mines en France. Agnès Pannier-Runacher, elle a été claire. Non, c'est politiquement impossible.
Ah,
mais est-ce qu'on aurait certains matériaux disponibles?
Ce n'est pas politiquement impossible. C'est difficile, mais je vais vous dire.
Oui, allez-y.
Je pense que dans mes propositions sur ce sujet. Un, c'est il faut aller vite... Et parce qu'on ne peut pas perdre de temps. On n'est déjà pas en avance, on a 20 ans de retard par rapport à la Chine. Il faut aller vite et il faut anticiper. Donc moi, ce que j'ai proposé, c'est que l'État français, au niveau français, nomme un délégué interministériel sur ces sujets et qu'on ait un observatoire où le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, et puis les industriels de la filière...
Oui, bien sûr, il est venu ici.
Bah, ils se mettent ensemble. Ouais. Bon, donc ça, c'est un premier ensemble. Le deuxième point, c'est qu'en France et en Europe en général, il faut ouvrir les mines. Il faut ouvrir de nouvelles mines.
Oui, mais ça, je veux dire, courage à celui qui va le faire.
Pour ouvrir de nouvelles mines, il faut, un, que les industriels s'engagent à ce que les mines soient responsables, c'est-à-dire que sur le plan écologie, sur le plan de l'éthique, on ait des certifications de tiers sur ce qui est fait pour donner confiance. Bon, donc ça, il faut qu'il y ait une norme de mines responsables qui soit actée par les industriels de l'automobile. Et puis, il faut que l'Union européenne... mettre les mines dans, vous savez, ce qu'on appelle la taxonomie.
Oui, bien sûr.
Parce que, oui, mais elles n'y sont pas aujourd'hui.
Je sais bien,
Bon, donc c'est pas normal.
Ouais.
Donc ça, il faut le corriger. Ouais. Donc ça, c'est un peu la deuxième recommandation. Et puis la troisième, c'est qu'on arrive à sécuriser les approvisionnements avec un fonds d'investissement qui permette de prendre des participations minoritaires dans des mines. Parce que, vous savez, les contrats entre un constructeur automobile et un minier, on l'a vu sur les composants. Le jour où il y a des pénuries, on n'est pas toujours bien servi. Donc voilà un certain nombre de... et puis, j'ai vu que la Première ministre a parlé de la voiture à 100 euros par mois, voiture électrique. Bah, il faut beaucoup d'innovation pour en arriver, là.
Ouais.
Voilà. Donc voilà mes propositions. Et en Europe, ça se termine. Enfin, ça se traduit par ce qu'on appelle un Raw Materials Act, c'est-à-dire un paquet pour les matières premières, comme le commissaire Breton l'a fait sur le Chips les puces, Act, hein, pour les puces, etc. Enfin, les composants.
Et ça devrait déboucher quand, quoi, comment?
À mon avis, enfin, ce que je souhaite. Et ce que j'ai dit, c'est qu'au deuxième semestre de cette année, au niveau européen, il y a la régulation batterie qui va sortir. Mmh. Il faut que cette régulation batterie, elle soit complétée par
un Raw Materials Act.
Voilà.
Ouais. Merci beaucoup. Ben, on aura l'occasion d'en reparler, hein, bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Varin, d'avoir été avec nous. On a compris qu'il ne fallait pas que du greenwashing. Il y avait aussi des questions derrière, avec des décisions pas faciles à prendre, mais qu'il fallait prendre. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est Benoît Coré, le président de l'autorité de la concurrence, qui sera notre invité. À tout de suite.
BFM Business. Le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est le redoutable et redouté Benoît Coré, le président de l'autorité de la concurrence. Bonsoir Benoît Coré.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous avez remis ce matin votre premier rapport en tant que président, bien sûr, de l'autorité de la concurrence, rapport annuel, qui du reste s'appelle, c'est un peu une nouveauté, parce que c'est un peu austère l'autorité de la concurrence, si vous me permettez, source d'oxygène. La concurrence est source d'oxygène pour l'économie et peut, et du reste vous le revendiquez, vous dites, ça peut faire gagner du pouvoir d'achat aux Français. Ça nous intéresse beaucoup, on a envie de se poser la question, comment vous chiffrez même ça, 18 milliards, plus de 18 milliards. Comment est-ce que vous arrivez à ça?
Alors, d'abord, le rapport est pas du tout austère. Moi, je vous incite à le lire, à le parcourir, à le laisser sur vos tables de chevet. Et effectivement, on parle d'oxygène. Pourquoi est-ce qu'on parle d'oxygène? Parce que la concurrence, ça sert à libérer du pouvoir d'achat, à libérer de la productivité dans des endroits où la productivité et le pouvoir d'achat sont prisonniers, parce qu'il y a des comportements d'entreprise qui ont envie de garder la rente pour elles. Donc la concurrence, ça sert à rendre du pouvoir d'achat au consommateur, mais pas seulement le consommateur personne physique, comme vous et moi, mais aussi la PME qui s'approvisionne chez ses fournisseurs, toutes les entreprises qui achètent des produits. La concurrence, c'est une formidable machine à créer du pouvoir d'achat. C'est ça qu'on veut dire avec ce message.
Et comment vous arrivez à ce chiffre de 18 milliards et demi?
Alors là, vous m'en demandez beaucoup parce que c'est une estimation macroéconomique. Hein.
Vous êtes un économiste réputé, oui. Benoît Coré.
Oui, mais il y a un modèle derrière qui a été validé par l'OCDE et qui permet de mesurer l'impact macroéconomique de toutes ces décisions. D'un point de vue beaucoup plus prosaïque, pour donner un chiffre beaucoup plus simple, l'autorité de la concurrence en 2021, puisque c'est l'objet de notre rapport, a collecté 874 millions d'euros de sanctions. Et sur l'année 2022, donc sur la demi-année 2022, on est déjà à 309 millions d'euros de sanctions collectées sur les entreprises. Donc on rapporte de l'argent aux contribuables.
Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que ça veut dire quand même que, je sais pas, le marché dysfonctionne? Vous voyez, ça peut être bizarre d'avoir quelqu'un qui se vante d'avoir autant de pénalités.
Bah, c'est la réalité du monde des affaires. Le monde des affaires est imparfait. Et d'ailleurs, le droit est là pour l'encadrer. Hein. Le marché, on le sait bien, n'existe pas tout seul. Il faut que le marché soit encadré par la loi et notamment par le droit de la concurrence. Les entreprises, elles maximisent leurs profits, elles travaillent pour leurs actionnaires et parfois elles font des choses qui pénalisent leurs clients. C'est vrai.
Et en plus, vous avez contrôlé un nombre record de concentrations en 2021. Oui. Pourquoi? C'est qu'en fait, il y a un effet rattrapage là aussi par rapport à la période du Covid?
Oui, en partie. Hein. On a 272 autorisations de concentration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une concentration? C'est une fusion hein, d'entreprise ou une acquisition. Il y a un effet de rattrapage parce que nous, on a continué à travailler pendant le Covid, mais beaucoup de projets d'entreprise ont été repoussés. Mais ça reflète aussi une économie qui est en pleine recomposition. Après le Covid, 2021, c'est une année de reprise hein, de l'économie, et avec des secteurs qui ont malheureusement été fragilisés par le Covid et parfois par des tendances plus lourdes, notamment de numérisation. Et par exemple, dans le rapport, on a un zoom sur le secteur de du textile et de la grande distribution de produits textiles, où il y a eu beaucoup de recompositions parce que c'est un secteur qui est sorti fragilisé de la crise. Et ça, on le retrouve dans les dossiers qui nous arrivent.
Ouais. J'ai une petite question, parce qu'on parle beaucoup de grande distribution en ce moment. Je recevais le président de Système U ici. Les centrales d'achat, il y en a très peu, il y en a 5 en France. C'est pas un sujet pour la concurrence et l'autorité de la concurrence ?
Ah non, c'est bien entendu un sujet pour l'autorité de la concurrence. Donc on surveille les opérations des centrales d'achat. Alors Bercy regarde aussi sous l'angle des pratiques commerciales, hein, puisque vous savez que la DGCCRF, la direction de la concurrence à Bercy, a pour mission de contrôler les pratiques commerciales. Nous on regarde, et d'ailleurs dans le domaine agricole, la loi Egalim nous a demandé explicitement surveiller les opérations de fusion entre centrales d'achat, pour vérifier que ça ne se fait pas au détriment, en l'occurrence, des producteurs agricoles.
Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'évolution, parce qu'évidemment, on connaissait vos prédécesseurs, notamment Isabelle de Silva, et ainsi que Robert Lasserre, ensuite, qui était... Bruno Lasserre, pardon, qui était parti au Conseil d'État. Vous êtes un économiste très réputé, vous avez été membre de la Banque Centrale Européenne, vous avez beaucoup travaillé sur toutes ces questions. Le fait que vous soyez maintenant à la tête de la concurrence, qui a un peu étonné certains, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous inscrivez, vous parlez de pouvoir d'achat. Pour être franche, c'est la première fois qu'un président ou une présidente de l'autorité de la concurrence me parle de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez un économiste à l'autorité de la concurrence, donc ça veut dire que vous êtes dans une vision plus économiste, plus dynamique ?
Non, pas nécessairement, parce que le métier a pas changé. On est là pour faire appliquer le droit. L'autorité de la concurrence a un rôle répressif pour sanctionner les comportements anticoncurrentiels et faire respecter la loi. Ça change pas du tout. Et ça, c'est un métier dont la substance est largement juridique. Mais c'est vrai que on est dans un monde, dans une économie qui est en pleine mutation. On a des tendances très lourdes, notamment le digital, l'apparition des grandes plateformes, etc. On a des chocs internationaux, et on l'a vu avec le Covid, et puis on le voit malheureusement en ce moment avec la guerre en Ukraine et le choc inflationniste. Et donc, il faut anticiper ce que ça va emporter pour les regroupements d'entreprises et pour les comportements des entreprises.
Et c'est là votre vision d'économiste est différente.
C'est là que la vision économique est importante.
Oui, alors vous voyez où je vais arriver, Benoît Cœuré. C'est-à-dire qu'on va parler de ce qui va vous occuper et ce qui vous occupe déjà, parce que je crois que vous avez fait plus de 1000 interviews sur ce... Voilà, c'est la grande fusion entre TF1 et M6, que certains pointent du doigt en disant c'est pas possible vu le poids dominant, puis que d'autres disent de toute manière on n'a pas le choix, justement, avec l'évolution des plateformes, des grands rapprochements qu'on voit aux États-Unis. Aujourd'hui, le digital, la télévision, tout ça, c'est la même chose. Donc, il y a une définition du marché pertinent. On ne va pas forcément rentrer dans le détail. Mais voilà, vous avez une vision d'économiste, vous avez une vision de président de l'autorité de la concurrence. Vous voyez, est-ce que vous êtes dans la dynamique ou vous êtes dans la répression ?
Non, là on fait respecter le droit qui nous demande de vérifier que le nouvel ensemble n'aura pas un pouvoir de marché excessif sur différents marchés, notamment le marché de la publicité qui est très important, mais aussi le marché du contenu, le marché de la production qui est très important pour l'écosystème de la production audiovisuelle et cinématographique en France, sur le marché de la distribution puisque tous ces programmes sont distribués de différentes manières. On est dans une phase où on aborde la dernière ligne droite, on met les bouchées doubles dans le dialogue avec les entreprises. C'est pour ça que je vous en dirai pas beaucoup sur le fond, parce qu'on est encore dans ce dialogue avec les entreprises.
C'est plus votre approche, oui, que je trouve intéressante.
Voilà. Et on est en train de regarder très finement et de la manière la plus chiffrée possible ces différents sujets, de manière à ce que le collège de l'autorité puisse se prononcer. Après l'été, il y aura le collège se réunira début septembre et puis il y aura une décision qui est programmée
15 octobre.
Mi-octobre, à temps pour permettre, la décision est positive, et je n'en préjuge pas, pour permettre
la réalisation. Vous êtes non, mais parce que vous voyez, vous pouvez avoir, je veux pas du tout vous coincer là-dessus, c'est un sujet très délicat, mais vous pouvez avoir une logique d'économiste en vous disant, puisqu'on parle de marché pertinent, oui, il y a un marché, le marché a évolué. Et puis après, on peut mettre des garde-fous, effectivement. On peut décider que cette fusion est possible, mais avec des garde-fous, là, on est vraiment dans le rôle, effectivement, de l'autorité de la concurrence.
Oui, mais les deux objectifs vont de pair, et je crois qu'il y a le facteur commun à ces deux objectifs, l'angle juridique et l'angle économique, c'est que toute décision qu'on prend doit être inscrit dans les faits et justifié. Et donc, on nous dit les marchés vont converger de manière très convaincue. Soit, eh ben, on veut le voir dans les chiffres. Voilà, c'est le travail qu'on fait en ce moment.
Et vous l'avez vu dans les chiffres ?
Eh ben ça, on vous dira après l'été.
Ouais. On dit que vous avez, après toutes ces interviews, vous avez déjà fait votre opinion, c'est vrai ?
Je ne suis pas le seul à décider. L'autorité a été munie
d'un collège. Je m'adresse à vous.
D'un collège qui est très varié, où il y a des représentants d'ailleurs du monde de l'entreprise, des magistrats et des universitaires. Et c'est très bien parce que sur une décision aussi importante, il faut se reposer sur la sagesse et la diversité du collège. C'est comme à la BCE. Mmh. Si les décisions sont prises par un groupe, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas des systèmes où une seule personne décide. Et c'est mieux comme ça.
Et est-ce qu'on peut dire que cette opération TF1-M6, en fait, c'est une opération qui dépasse même ces deux entreprises, parce que ça montre un peu comment la France appréhende justement toute l'évolution de ces plateformes, de la publicité digitale. Vous voyez, ça les dépasse presque.
Oui, j'aime pas trop cette manière de voir les choses, enfin de trop généraliser, parce que on regarde un projet particulier, on va regarder des marchés qui sont très spécifiques, donc on n'est pas là pour envoyer des signaux politiques. On décide d'une opération sur ses mérites propres.
Ouais. Donc c'est un point important. La notion de gratuité ou payant, c'est une notion qui vous intéresse ou pas ? Parce que là, eux, ce qu'ils disent, ça sera, nous, on veut un marché français gratuit. C'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui fait l'attribution de la Ligue de football, veut dire c'est le payant qui l'a emporté. Est-ce que pour vous, c'est une notion qui compte ou ça ne rentre pas dans les règles de la concurrence ?
C'est des évolutions très structurantes dans le marché. Il y a des offres payantes, il y a un modèle gratuit, aussi bien pour la télévision publique que pour ces deux opérateurs. Il y a, dans certaines offres, on voit apparaître une forme de convergence avec des applications de streaming qui peuvent être en partie gratuites, en partie payantes. Donc tout est possible. La question, c'est de voir un peu comment tout ça va se cristalliser.
Oui.
Mais on est effectivement dans un monde où tout ça est en train d'évoluer vite. Oui.
Ça évolue vite. Et puis il y a des garde-fous. On le voit avec le DMA qui vient d'être adopté hier à Bruxelles. Ça fixe des normes très fortes, notamment pour les plateformes qui jusqu'à présent naviguer un peu au gré de leurs bénéfices. Là, c'est plus possible. Donc...
Alors ça, c'est très important, parce que c'est vrai qu'il y a sans doute un peu eu de... Alors, je ne veux pas critiquer...
D'incompréhension, peut-être.
D'ignorance. Il y a des trains qu'on a laissé passer collectivement, et on a laissé se constituer des pouvoirs de marché très importants dans le domaine numérique, mais probablement aussi dans d'autres secteurs. Et une fois que le pouvoir de marché est là, c'est très difficile à défaire. Donc la meilleure manière de lutter contre l'abus de position dominante, c'est qu'il n'y ait pas de position dominante. Alors ça, on peut agir en amont, à travers le contrôle des concentrations, justement. Mmh. Et donc moi, je m'attends à ce qu'au niveau mondial, je ne parle pas de dossier particulier, au niveau mondial et européen, il y ait plutôt un durcissement du contrôle des concentrations pour éviter justement la création de l'apparition de ces pouvoirs de marché très forts qui permettent des abus. Et puis une fois que le pouvoir de marché est là, ce qui est le cas des grandes plateformes, il faut le réguler. Et donc c'est ça que fait le DMA. Et on va travailler, nous, avec la Commission européenne. La Commission européenne mettra en œuvre le DMA. Il y a un certain nombre de pratiques qui sont dans le DMA. Et puis on continuera notre action antitrust, notre action de concurrentielle, y compris sur les plateformes, sur tout ce qui n'est pas dans le DMA. Et on va articuler tout ça.
Oui, d'accord. Donc ça devient un peu plus... Ça se resserre quand même un peu. Vous allez travailler, je crois, sur le cloud.
Oui.
Pourquoi le cloud ? Comment vous allez travailler ? Parce que là aussi, on les retrouve, les GAFAM, bien sûr.
Alors le cloud, c'est très important parce que, justement, ça fait partie des secteurs. Je disais, la meilleure manière d'éviter un abus de position dominante, c'est qu'il n'y ait pas de position dominante. Le cloud, c'est un secteur qui est en évolution. Il y a déjà des acteurs dominants, parce que des grandes plateformes mondiales, on les connaît. Je veux dire, c'est des GAFAM qui sont actifs dans le cloud. Il y a d'autres acteurs, c'est encore assez fluide. Et on va faire un travail de recensement des pratiques.
Mais qui va déboucher sur quoi ?
Bah, ça va être diffusé sur ce qu'on appelle un avis de l'autorité. Donc, c'est pas une, on n'est pas dans une approche répressive, là, pour le coup. Mais on va préparer le terrain. On va poser la question de la définition des marchés, justement. Mmh. Vous savez, sur le cloud, il y a plusieurs.
Du marché pertinent.
Du marché pertinent, oui. Sur le cloud, il y a plusieurs modèles possibles. Hein. Il y a le plateforme, comme on dit en anglais, malheureusement, platform as a service, software as a service, infrastructure as a service. C'est différents types de services. Est-ce que c'est des marchés différents? Bah, c'est des questions qu'on va poser à l'industrie. Il y aura une consultation publique qui sera publiée la semaine prochaine. Et on donnera tout l'été aux acteurs pour nous répondre. Et on fera un travail de synthèse pour dire comment on voit le fonctionnement du marché. Ça sera la base pour des décisions futures.
Et fonctionnement du marché, il y aura la notion de souveraineté qui va rentrer en jeu ou pas?
Oui, oui, bien sûr, parce que c'est un élément structurant de la discussion, en France notamment. Oui. Ouais,
donc ça, c'est un point... Alors sinon, vous parliez de rendre du pouvoir d'achat aux Français grâce à la concurrence. Mmh. Vous avez fait tout ce qui était sur les... un travail sur tout ce qui était les pièces détachées. Mais là, vous attaquez un peu aux concessions d'autoroutes. Vous dites oui, vous attaquez aux concessions d'autoroutes.
C'est un exemple. L'autorité s'est prononcée dans le passé sur un certain nombre de secteurs, notamment les autoroutes, mais pas seulement, avec une boussole assez simple qui était comment est-ce qu'on fait pour que, à nouveau, pour que le pouvoir d'achat soit rendu à l'utilisateur, au consommateur. Donc les concessions d'autoroutes, c'est un exemple. On a des péages qui sont indexés sur l'inflation et qui ne prennent pas en compte les gains de productivité ou les coûts des opérateurs. Bah, ça, il faut y réfléchir. Pas forcément tout de suite, ça peut être pour les prochains renouvellements. Il y a d'autres exemples qu'on peut prendre un peu partout dans l'économie.
C'est donc pour les prochains renouvellements, mais qui arrivent vite.
Oui, ça va arriver vite, donc il faut y réfléchir.
Ben vous travaillez donc déjà sur ce que vous allez dire.
Voilà, et on est à la discussion.
Sur le renouvellement des concessions.
Sur
par exemple,
ce sujet comme sur d'autres.
On avait fait des
propositions. Il y a eu déjà un avis de l'autorité où on faisait des propositions sur la mode de fixation du tarif. Il y a d'autres exemples dans le domaine de la mobilité. Le permis de conduire. On a réformé l'épreuve théorique. On peut continuer à réformer l'épreuve pratique pour résorber les goulots d'étranglement. Les pièces détachées automobiles, vous en avez parlé. Il y a une bonne réforme fondée sur la recommandation de l'autorité. Et puis, il y a des sujets dans la grande distribution qui sont dans le débat public. Il y a un débat sur le seuil de revente à perte, par exemple. Le seuil de revente à perte, c'est un sujet, c'est fait pour défendre les producteurs agricoles, ce qui est un très bon objectif. Donc il faut y toucher avec beaucoup de précautions. Le fait de dire que la revente à perte, ça commence à 10%, ça a sûrement un effet sur les prix. On n'est pas sûr que ça soit redistribué aux producteurs.
Oui, c'est ce que dit pour le coup aussi Michel Leclerc.
Voilà. Et donc, il faut regarder de manière assez fine par produit, mais aussi par territoire. Et je pense que dans des territoires où les prix sont plus élevés, je pense à la Corse, je pense au département d'outre-mer, il y a manière à faire des expérimentations pour libérer et desserrer ces contraintes, bien sûr.
Est-ce que je sais pas. En ce moment, c'est le président de la République qui a parlé des profiteurs de guerre. Si vous regardez les transporteurs, il y a une grande entreprise de transport qui s'appelle CMA CGM pour ne pas la nommer. Ça, c'est des sujets aussi pour vous en ce moment. Cette crise qu'on connaît en ce moment à cause de l'Ukraine.
Oui, on l'a dit publiquement qu'on regardait, par exemple, la question de la distribution des carburants en Corse. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder. La DGCCRF, à nouveau, a été mandatée par Bruno Le Maire pour regarder très finement la répartition des marges dans les filières agricoles, dans la chaîne de valeur agricole, de la fourche à la fourchette, si vous voulez. Et s'il y a des actions à prendre au titre du droit de la concurrence, on le fera, bien sûr. Ouais.
Merci beaucoup, Benoît Cœuré. Juste sur le calendrier TF1 M6, il n'y a pas de retard. Vous respectez début septembre et 15 octobre, quoi.
On est complètement sur le calendrier qu'on a annoncé il y a très longtemps et pour une décision à la rentrée, oui.
Merci beaucoup d'être venu nous parler d'oxygène, de sources d'oxygène. La concurrence est source d'oxygène. En tous les cas, c'est ce que vous déclariez à l'instant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benoît Cœuré. Dans un instant, on refait l'écho.
BFM Business. Le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
C'est l'heure de On refait l'écho avec Olivier Babeau qui vient d'arriver en courant. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, président de l'Institut Sapiens. Et face à vous, j'aurais dû commencer par elle, mais c'est Anne-Charlène Bézina, j'ai fait par ordre alphabétique. Bonsoir Anne-Charlène.
Bonsoir.
Merci d'être là, constitutionnaliste, maître de conférence à Sciences Po Paris et à l'Université de Rouen. C'était le jour où il faut aller venir, c'est pour ça que vous êtes là, discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Alors, il y a deux mots qui sont revenus un peu comme une constance pour structurer son action de son gouvernement, c'est le mot compromis et le mot ensemble. Alors, on va rentrer dans les, un petit peu plus dans le détail, mais juste d'abord, Anne-Charlène Bézina, plutôt réussi comme discours ?
Plutôt réussi, notamment parce qu'il y a une incarnation. Elle a beaucoup voulu personnaliser son discours en l'emploi du « je » plusieurs fois. « Je m'engage ». Elle a dit qu'elle serait l'infatigable personne qui serait à la recherche de ses majorités courtes. Donc, elle s'engage. Elle a voulu personnaliser ce discours. Et puis, il y a aussi cet engagement à inverser la charge de la preuve, puisque cette majorité courte n'est pas un problème pour elle, mais ça va être un engagement que va devoir prendre l'opposition. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle structure le débat autour du fait de dire « voilà, je vais proposer des choses ». Et ce sera ensuite à vous poser la question de savoir si vous allez adhérer ou non. Et elle dit même, en terminant cette partie de son discours, les Français en jugeront. Donc, un discours où elle s'affirme, elle montre qu'il y a une première ministre pour la France et qu'elle saura justement être au combat, au coup par coup.
Je n'ai pas le complexe de la femme présidentielle. Je ne suis pas dans les grandes phrases et les petits mots. Vous avez été séduit, Olivier Babeau, par ce discours de politique générale ?
J'ai trouvé que c'était un discours qui était très réfléchi, très stratège dans toutes ces façons dont il aborde le sujet, dans la petite main tendue en quelque sorte au LR, à travers Olivier Marleix.
Ah, il y avait tous les présidents de groupe ont été salués.
Tout le monde y a eu droit, mais c'est très travaillé.
Sauf
Mathilde, évidemment, en général, c'est l'absent qu'on remarque. Évidemment, on l'avait tous vu, mais on voit très bien que elle a voulu dire ce qu'elle voulait faire, ce que le gouvernement voulait faire, mais la question est ce que le gouvernement pourra faire. Et donc, ils ont déjà essayé de construire, effectivement, en renversant la charge de la preuve, comme tu l'as évidemment dit, de façon extrêmement intéressante, et finalement, en n'annonçant rien de vraiment nouveau, sauf une volonté, je trouve, peut-être qui n'avait pas été énormément affirmée, peut-être qu'on parlera d'EDF, mais d'être sur le chemin de l'équilibre des comptes publics. Oui. Je crois qu'elle a dit, prendre le chemin de l'équilibre, chemin d'embûches, est très long, comme on le sait. Mais
2026 enfin, et puis 2027,
c'est
voilà. Les 3%. Oui.
Des dates qui ont été données. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un engagement qui est pris, notamment. Alors, c'était le jeu de LFI de dire, mais cet engagement a été pris sans qu'on le dise. Donc là, elle l'avoue, elle en fait un engagement. Et elle précise d'ailleurs que dès le premier budget, eh bien, il y aura des efforts qui seront faits. C'est là d'ailleurs qu'elle fait son clin d'œil au groupe Les Républicains. Donc il y a en effet des mesures qui ont été annoncées quand même. Elle a annoncé aussi des lois obligatoires comme les lois de programmation. Donc plutôt la sécurité dans ce qui a été annoncé, hein, il faut le dire.
Il y a un point justement dans le sens de la formule que vous pointiez du doigt à l'instant, Olivier, c'est sur les retraites.
Oui.
Elle a dit on devra travailler un peu plus longtemps. Donc déjà, le un peu plus longtemps, tenir compte des carrières longues, de la pénibilité, faut pas une réforme uniforme. Et puis surtout, elle est pas ficelée. Ça sera pas, c'est à prendre ou à laisser. Changement de discours quand même, non, je trouve.
Oui, d'ailleurs, on l'a vu avec le construire ensemble, nous parler plus, c'est quand même une très très forte volonté. Elle a quasiment essayé de faire, du fait qu'elle n'est pas un tribun et qu'elle l'avoue et qu'elle reconnaît, une sorte d'avantage, c'est-à-dire que voilà, elle est là pour travailler et peut-être plus pour écouter que pour se mettre en avant. C'est une façon de retourner évidemment ce qui aurait pu être interprété comme une faiblesse à son avantage.
Oui, et puis elle se laisse les coups des franches sur cette question de la réforme des retraites. Finalement, si on en reste sans rien faire, c'est à peu près ce qui se passera. On travaillera petit à petit de plus en plus. Donc elle est vraiment très prudente et elle ouvre au dialogue social. Donc c'est une manière de vraiment noyer tout volontarisme sur cette réforme-là. Notamment parce qu'on le sait, elle n'est pas consensuelle. Dans un Parlement aussi divisé, ça va être quand même la réforme la plus complexe à mener. Donc c'est une manière de, j'ai envie de dire, d'abandonner du terrain petit à petit sur cette question.
Est-ce qu'elle s'est montrée une femme de gauche ? Parce que c'est une femme de gauche, hein, Elisabeth Borne. Est-ce que c'est... Enfin, elle s'est positionnée comment ? Moi, je trouve comme... Enfin, dans les formules qu'on vient de reprendre, c'est quand même un peu de l'anti-Édouard Philippe ou de... Pas Jean Castex, mais vous voyez, c'est pas raide comme un poteau.
Oui, et enfin, si on regarde l'ensemble de ce qui a été annoncé, il n'y a absolument rien de libéral dans la façon dont le gouvernement procède. Ça n'est que de l'intervention, c'est que de la prise en main, en particulier une forme de nationalisation d'EDF, avec laquelle on peut être éventuellement d'accord, mais on voit très bien qu'on est complètement
le travail, facteur
dans
d'émancipation.
Une sorte de social-démocratie, avec évidemment une insistance extrêmement importante sur toutes les aides. D'ailleurs, sur la retraite, elle n'est pas ficelée, mais enfin, on sait qu'il va falloir travailler plus longtemps, ça veut dire qu'on a choisi l'option.
Un peu plus longtemps.
Un peu plus.
Non, mais moi, c'est le
c'est le un peu. Après, on sait que la question, évidemment, fatale, ça sera celle du rythme, hein, puis celle de l'Elbit. Mais elle a tout de suite mis les garde-fous avec la pénibilité, avec les carrières longues, qui sont en fait les deux vraies objections. Ah oui, la troisième, pardon, sur l'emploi des seniors, le taux d'emploi. Et donc, finalement, elle a tout de suite bordé en répondant. Elle a déminé en
répondant. Elle a borné, vous voulez dire.
Voilà, elle a tout à fait borné le truc, exactement.
Femme de gauche, elle a essayé aussi avec l'appel à Edith Cresson, qui finalement a pas été. Enfin, le soufflet est un petit peu retombé, puisque justement, elle n'a pas suscité l'adhésion des bancs de la gauche qui ont finalement refusé dans le discours toutes les mains tendues dans l'idée de bien montrer que c'était l'opposition.
Pourtant, Edith Cresson, qui était l'invitée de nos confrères de BFM TV, a dit que c'était un excellent discours et a chanté ses louanges.
En effet, puis on aurait pu espérer le fameux moment républicain qui aurait pu.
Il y a eu une standing ovation, mais qui n'était pas partagée sur tous les bancs.
C'est vrai.
Alors, on ne voyait pas très bien à l'image, mais j'ai cru voir que toute la gauche, sauf LFI, ne se levait pas. Et il paraît que le RN non plus. C'était pas levé, c'était pour acclamer, n'est-ce pas, les forces de l'ordre.
Oui.
Voilà.
Et notamment les soldats, je crois, les soldats qui. Ou les familles endeuillées, etc. Là aussi, on a eu une standing ovation pas toujours partagée. Donc, en fait, on voit bien, finalement, dans ces réactions, avec notamment des huées, etc., qu'il y a une opposition qui sera plus dure, qui sera l'opposition.
Mais qu'on s'attendait peut-être à avoir plus dur, non ?
Qu'on s'attendait peut-être à avoir un peu plus indiscipliné. Oui. Alors, il y a aussi quand même une petite question de discipline au sein de l'Assemblée nationale qu'il faudra poser, parce que c'est quand même les services de la séance qui ont plusieurs fois fait les allers-retours dans les travées pour calmer les gens, alors que la présidente de l'Assemblée nationale a été un petit peu molle sur cette question, notamment parce que la Première ministre a dû plusieurs fois lever la tête pour demander la discipline. Donc ça, c'est quand même un point sur lequel la présidente devra s'affirmer. Et puis, un grand moment aussi de lyrisme où elle a choisi de personnaliser et de parler de son parcours républicain. Donc ça, c'est vraiment un choix qui est pas tellement celui du discours de politique générale normalement. Donc ça prouve que peut-être elle a entendu la critique de son absence, de son évanescence, et qu'elle a voulu incarner, prouver qu'elle était là. Elle
et
a parlé,
même son arrivée, enfin on va pas chanter les louanges de la Première ministre, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que son arrivée à pied de Matignon avec sa bande de ministres était plutôt assez
décontracté,
sympathique. Non, Olivier, ça vous
a séduit. Oui, c'est effectivement.
La com était réussie.
C'est son style. C'est vrai que c'est une petite marche, mais vu le temps qu'il fait, c'était une marche plutôt sympathique. Et je pense que ça donne aussi un signal peut-être d'accessibilité.
C'est ça qu'elle a voulu montrer, c'est clair. Il y a eu, moi, un moment, et après on regardera sur la feuille de route du gouvernement, bien sûr, un moment quand même, elle a souri plusieurs fois. Il y a même un moment, on la voyait, on sentait qu'elle avait du mal à reprendre son sérieux. Non, ça ne vous a pas frappé plusieurs fois ?
C'est vrai, et notamment, alors, parfois, certains sourires peut-être un petit peu factice et qui faisait partie du texte, quand elle faisait ces fameux appels aux différents présidents de groupe, où à chaque fois elle prenait soin de les regarder et de poser un sourire, qu'on a très vite perdu quand même dans la réponse aux questions des membres du groupe, où là elle a été très très combative, et où on a retrouvé le ton finalement du discours majorité-opposition, où on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, notamment quand elle aura à répondre dans les semaines qui suivent aux questions au gouvernement, aux questions d'actualité, et bien que le ton sera plutôt celui de laisser se fatiguer les oppositions et de rester ferme sur ses positions.
Oui, Olivier.
Il y a un choix délibéré. Je pensais au discours de Valérie Pécresse pendant la campagne. C'était très bien dans un style, mais il y a un choix délibéré de ne pas vouloir faire de l'éloquence. C'est-à-dire qu'elle aurait pu essayer, elle aurait peut-être pu se faire coacher en disant...
J'aime pas les grandes phrases, c'est ce qu'elle a dit. Hein.
Non, mais il y a du style. Il y a du style. Bon, on est entre nous, il y a des gens pour écrire ce genre de discours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mis sa patte, mais il y a évidemment des gens derrière avec quelques bonnes tournures qui ont été pas mal. Mais elle n'a pas voulu faire semblant d'avoir l'éloquence qu'on sait qu'elle n'a pas. Quoi, voilà. Et je trouve que c'est une forme d'authenticité quelque part dont on peut lui savoir gré.
Un pragmatisme finalement aussi qui fait partie de son action. On a le sentiment que ça fait partie de la personne.
Tout le monde pensait que ça allait être une catastrophe, finalement, elle s'en est plutôt bien tirée. Tu as des commentaires plutôt positifs.
Commentaires plutôt positifs à
voir. La feuille de route, là, on a quand même une petite feuille de route, parce que c'est un peu la première fois qu'on sait ce que veut faire Emmanuel Macron, quand même, depuis avant même son élection présidentielle.
Avec peut-être un petit défaut que je pourrais lui trouver sur ce discours, c'est qu'elle s'est beaucoup engagée sur 2017. Plusieurs fois, quand elle a donné les 27. Différentes. 2017. En rappelant justement que telle mesure s'inscrivait dans la lignée de telle mesure.
Pardon,
et donc, finalement, elle a porté un bilan, ce qui n'est pas tellement judicieux dans un discours de politique générale où justement c'est 2027, c'est-à-dire qu'on vise l'avenir, et là pourtant elle a visé le passé plusieurs fois en disant voilà, telle mesure a déjà été prise mais on va la continuer, telle mesure a déjà été prise mais finalement on va l'améliorer. Donc je pense qu'elle a eu un petit peu tort de cela, et elle a aussi beaucoup repris le champ lexical de son président, ce que normalement le discours de politique générale est censé permettre de ne pas faire, c'est-à-dire d'incarner.
Ça veut dire quoi ? Je pose la question à la constitutionnaliste.
Notamment la fameuse France indépendante dans l'Union européenne souveraine, etc., qui sont complètement des clés de Emmanuel Macron. Elle a repris aussi son discours sur la laïcité, etc. Donc en fait, elle s'est inscrite
Égalité, fraternité, voilà. Laïcité.
Elle s'est inscrite directement dans le champ lexical, dans le vocabulaire choisi par son président. C'est dommage qu'elle n'ait pas finalement, puisqu'elle l'a incarné personnellement, qu'elle n'ait pas choisi elle-même aussi le cap de sa majorité.
Bah, aucun moment pendant la campagne, Emmanuel Macron n'a voulu dire qu'il y aurait une rupture. On est bien dans la continuité, effectivement.
Oui, mais sauf qu'on ne sait pas, on sait pas ce qu'il veut faire.
Alors, il n'y a pas eu surprise. Alors,
président nouveau, peuple nouveau, mandat nouveau, quand même.
C'est vrai. Bah, donc ça, c'était tout ce qui était annoncé, on le savait quasiment, parce que EDF s'était annoncé dès le mois de mars.
Oui, c'est la réforme des retraites. Souvenez-vous, le président avait lâché 65 ans comme ça. Bah, là, on l'a pas du tout dit.
Oui, mais enfin, on sait à peu près que c'est vers là qu'on se dirige. Ah, on sait que il y a pas de hausse d'impôts, qu'il y aura la poursuite de la baisse des impôts de production.
Ça, c'était pas gagné.
C'était pas absolument gagné. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je trouve que dire cesser de croire qu'à chaque défi la solution est une taxe, moi je trouve que c'est une forme de prise de position qui n'était pas absolument évidente, évidemment, qui ne fait pas plaisir à tout le monde autour de l'hémicycle. Et puis évidemment, prendre le chemin de l'équilibre, donc ça veut dire que si on n'augmente pas les impôts, si on veut que la dette arrête de partir dans une course folle, ça veut dire qu'il va faire il va falloir faire un très gros effort sur les finances publiques. Et là, pour le coup,
on sait pas
il n'y a pas le début de commencement d'une explication.
Il faut une croissance forte et durable.
Ah, faudrait aussi.
C'est ça qui va apporter ça.
Ça aide.
Le plein emploi aussi quand même un très grand passage, presque un bon quart à mon avis du discours, consacré au travail, à la valeur du travail, à la valeur d'insertion du travail. Et une information aussi qui est passée un peu inaperçue sur le rôle du président de la République, qu'elle a à chaque fois mentionné uniquement sur la politique internationale. Donc on a le sentiment que le partage des forces est déjà établi entre le président et son premier ministre. Le président sera à l'international et le premier ministre à l'intérieur, un peu comme on l'a dans les situations de cohabitation finalement, comme si Emmanuel Macron, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas briguer de troisième mandat, avait envie de jouer sa partition à l'international comme chef des armées, comme chef de la politique étrangère, et que ce sera elle qui devra mener les efforts de front et notamment les réformes.
Elle a beaucoup, pardonnez-moi, mais j'en profite, elle a beaucoup salué les femmes. N'est-ce pas, Olivier Babot?
C'était évidemment.
Non, les femmes étaient très présentes dans son discours.
C'était
impressionnant de voir la présidente de l'Assemblée nationale, la première ministre. C'était c'était fort.
Plusieurs présidentes de groupe.
Cinq femmes
en tout qui se sont exprimées dans cette première journée.
C'était le moment ou jamais. C'est vrai que l'image était belle, puisque pour la première fois, ça faisait quand même très longtemps qu'on attendait une nouvelle première ministre. La dernière n'avait pas duré très très longtemps. On ne sait pas combien de temps durera celle-là d'ailleurs, mais en tout cas, pour l'instant, c'est formidable. Et puis la présidente, qui en effet doit prendre un petit peut-être de bouteilles. C'est un métier compliqué, je pense, de mener.
Surtout
dans ce contexte.
Surtout la voix joue beaucoup.
Il faut,
les voix de femmes sont moins fortes.
Il faut avoir aussi un savoir-faire, savoir quand être un peu ferme ou puis quand laisser aller, parce que c'est sûr qu'on est forcément un peu véhément dans ces moments-là. Donc ça viendra avec l'expérience. Et puis c'est vrai que beaucoup de postes viennent à des femmes. On a un vrai progrès de ce point de vue-là. C'est une image qui fait plaisir.
Donc là, première étape réussie. Deuxième étape forte demain, avec la loi sur le pouvoir d'achat présentée en Conseil des ministres. On l'attend beaucoup. C'est la manière dont le gouvernement va réussir à lutter contre l'inflation, le pouvoir d'achat. Ça c'est déterminant, non, peut-être pour la suite du quinquennat.
C'est déterminant, c'est quand même théoriquement le moment le plus facile. Parce que vous faites des chèques qui s'appellent plus l'échec, parce qu'on n'appelle plus comme ça maintenant. C'était un monde extrêmement malheureux d'ailleurs. C'était vraiment terrible. Cadeaux fiscaux, on essaye d'éviter. Mais en tout cas, on fait de la distribution, on ouvre des guichets. Normalement, tout le monde doit être content. Ça
ne
va pas être si facile que ça.
Et
non, le problème, c'est qu'on essaie d'arroser le moins possible. Et puis que les oppositions, évidemment, sont dans le jeu du ça n'est jamais assez, il en faut toujours plus. Mais théoriquement, c'est le moment où vous pouvez arriver à faire un pack un peu plus facilement. C'est après, à mon avis, toute ma théorie, c'est que c'est à partir d'automne que les choses vont être beaucoup plus compliquées.
Alors on
en 2023. Là, ça deviendra difficile.
C'est sûr.
En conclusion, vous voyez comment la rentrée, justement. Bon, le pouvoir d'achat, ça va être important. Ça va être de voir comment se fait l'inflation, si on arrive à la maîtriser un peu. Mais la rentrée, est-ce qu'elle va être chaude sur le plan social?
Il y a aussi un autre moment clé, c'est que on a une première ministre qui n'a pas présenté la confiance. C'est vrai que c'était quand même une rupture. Mais le premier budget, ça va être vraiment là où on va voir où se structurent les forces d'opposition.
Oui, c'est le projet de loi.
C'est un moment 5e République qui est immanquable. C'est là qu'on structure les groupes. Donc elle l'a bien dit qu'elle ne ferait plus de cadeaux économiques sur ce plan-là. Donc ce budget, si c'est déjà celui de la rigueur, ailleurs, il risque d'avoir quand même.
On a vu, non, elle a dit 2026, hein, 2026 quand même, on a encore un petit peu de marge.
On a une injonction contradictoire entre le chemin vers l'équilibre et puis la planification écologique, dont pour l'instant, on n'a pas effectivement non plus des idées extrêmement claires. Elle, ça encore, ça va être une.
Et on a quand même, on l'a interviewé là sur BFM TV, BFM Politique, Éric Coquerel, quand même président de la Commission des Finances, qui est quand même un petit peu dans la tourmente lui aussi.
C'est vrai.
Donc peut-être pour le vote du budget, ça sera peut-être plus simple en tous les cas, non ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Une caractéristique de l'époque actuelle, c'est que tout va tellement vite que effectivement, peut-être que penser septembre, c'est même encore trop tôt là, le 5-6 juillet, et peut-être qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Est-ce que M. Coquerel sera toujours là ? Qui sait ?
Beaucoup de choses à voir aussi sur cet été, puisque quand même, on l'a dit, le pouvoir d'achat, notion la plus consensuelle de toute la politique publique en général. Si là, on n'arrive pas à se structurer, ça nous dira des choses aussi sur l'état des forces du Parlement et sur aussi la manière dont on continuera à dépenser, à proposer de la politique aux Français. Et surtout, est-ce que ça leur parlera ? Est-ce qu'on réaura de la lésion ? C'est ça, la grande question de la rentrée.
Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina, merci beaucoup Olivier Babot. Voilà, vous pouvez réécouter, podcaster cette émission sur le site de BFM Business, sur l'application de BFM Business. Rediffusion ce soir 22h minuit. Voilà, c'est la fin de ce grand journal. Ici, on se retrouvera vendredi et lundi en direct ou quasi direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonne soirée.
Le grand journal de l'écho sur BFM Business.